Parlons nature. Bienvenue dans l'émission. Ça donne pas le bourdon. Proposé et co-animé par Indre Nature, l'association Épinété,
le Centre permanent d'initiative pour l'environnement
et la Réserve naturelle nationale de Chérine. Dans l'émission Ça donne pas le bourdon, tous ensemble, parlons d'environnement.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la capsule de Ça donne pas le bourdon. Là je suis avec Frédéric Beau et on chuchote parce qu'on est à côté d'une mare avec une cistude.
Oui, bonjour Juliette. Effectivement, on vient d'approcher de la mare. Et il y a une cistude qui est sur le tronc avec un GPS sur le dos et on va essayer de vous expliquer tout ça.
Bon, la cistude est partie, donc on va pouvoir parler normalement le reste de la capsule. Frédéric, toi tu travailles pour l'association Épiméthée.
Oui, tout à fait, je suis salarié de l'association Épiméthée où on fait de la biologie de la conservation. C'est-à-dire qu'on essaye de préserver des espèces en voie de disparition sur des bases scientifiques.
Tu interviens souvent dans l'émission Ça donne pas le bourdon. Et aujourd'hui, on est chez toi, à Prissac, autour d'une mare, pour parler d'un plan d'action un peu particulier.
Oui, on est autour d'une mare qui s'appelle la mare aux cistudes. On n'est pas très, très original, puisque beaucoup de projets sont nés en fait ici. C'est une mare d'une exploitation agricole sur le gué de Lavaux, qui est un site que l'on co-gère, où on mène des études, des suivis. Et il se trouve que ici, il y avait pas mal de cistudes. Et on a déjà fait des capsules à ce sujet-là où on voyait des cistudes, dans d'autres mares on n'en voyait plus, donc on ne savait pas vraiment comment elles utilisaient le milieu. Donc il est né l'idée de mieux comprendre la biologie de l'espèce dans ce milieu-là, dans ce paysage bocager, avec un réseau de mares, parce qu'il y avait très peu de connaissances. Et au départ, on les avait étudiés grâce à la télémétrie, donc avec un système d'émetteurs où il fallait venir avec une antenne les localiser pour voir où elles étaient. Et aujourd'hui, la technologie avançant, on peut avoir des GPS qui sont petits, alors qu'on leur met, qu'on leur colle sur le dos le temps d'un, juste le temps de l'étude, et ça nous donne des informations hyper intéressantes puisqu'on arrive à localiser le positionnement des cistudes à la fréquence que l'on veut. Là, on a des positionnements, depuis 2 ans en fait, on a des positionnements toutes les 20 minutes. On sait, on a 10 individus, on sait ce que ces individus ont fait pendant 1 an et demi, 2 ans, toutes les 20 minutes. Donc ça nous donne une source d'information immense.
Oui, par exemple, la cistude qu'on a vue tout à l'heure, elle avait ce petit émetteur sur le dos.
Oui, et elle, on a précisément, depuis début 2024, on sait où elle a été, les échanges qu'elle a fait entre les différentes mares, dans quel milieu elle est allée, dans quel, où est-ce qu'elle a pondu. Enfin, on a vraiment toutes ces informations, on l'a, qu'on ne pourrait pas avoir sans l'utilisation de cette technologie.
Donc là, ce programme, il arrive à sa fin après 2 ans. Ça fait un petit moment qu'elles se trimballent, ces petits GPS sur le dos. Tu vas les enlever, c'est ça?
Oui, maintenant qu'on les a suivis, on a eu pas mal d'informations. On a un peu ce qu'on voulait, en fait. Et aujourd'hui, on va les déséquiper pour leur enlever ça. Et puis, l'idée de ce programme-là, c'était, entre guillemets, on les embête un peu pendant... Parce que c'est pas anodin, la capture, les équiper. Ça les entrave pas dans leur déplacement, parce que depuis de très nombreuses années, on a assez de recul pour noter ça. Mais on a quand même, voilà, dès lors qu'on étudie une espèce, on sait, voilà, qu'on la perturbe un petit peu, il faut la capturer, il faut l'équiper. Donc ça, on a des autorisations pour faire ça.
Oui, parce que si on n'a pas d'autorisation, il faut les laisser tranquilles.
Oui, l'idée, c'est de les laisser tranquilles au maximum. Et nous, en fait, on a fait un peu comme un médecin, on a fait un peu bénéfice-risque. Ça veut dire que l'objectif derrière, c'est quoi? Est-ce que équiper des cistudes pour se faire plaisir, ça vaut pas le coup? Mais équiper des cistudes pour apprendre des choses qui vont être très importante et intéressante pour leur conservation. Là, ok, donc on s'est dit, banco, on les équipe. On a eu les financements grâce à l'ADREAL, grâce à l'Agence de l'eau, grâce au Fonds vert, pour pouvoir mener à bien ce projet-là. Et aujourd'hui, on a beaucoup d'informations, de choses que l'on pressentait, c'est-à-dire que la cistude est une espèce aquatique, mais on l'observait en dehors des milieux aquatiques, sur terre, et pas seulement pour aller pondre, on l'observait dans des ronciers, on l'observait dans des bois, alors même qu'il y avait de l'eau dans les mares. On sait que la cistude, c'est une espèce qui peut être méditerranéenne, enfin qui est méditerranéenne, parce qu'on la retrouve même en Afrique du Nord, donc dans des zones où il n'y a plus d'eau, on sait qu'elle a cette capacité d'adaptation. Mais là, ça nous interrogeait de se dire, il y a de l'eau dans la mare, et pourtant elle n'est pas dans la mare. Et donc là, les GPS nous ont permis de nous rendre compte qu'elles ont une utilisation qui va bien au-delà des points d'eau, des mares, qu'elles soient temporaires ou permanentes. Eh bien, on a des informations sur comment les femelles utilisent les différents milieux annexes, les mâles aussi, comment ils utilisent ces différents milieux annexes. Après, sur la question pourquoi on va retrouver des cistudes dans les bois, il y a encore plein de questions qui se posent. Mais là, on a des informations concrètes pour se dire, ok, si on veut préserver l'espèce dans un système bocager, dans une ferme comme on a ici, là on sait ce qu'il faut préserver.
Et alors, qu'est-ce que ça vous a apporté comme connaissance, toutes ces données récoltées toutes les 20 minutes pendant 2 ans?
Eh bien, on s'est rendu compte qu'effectivement, les cistudes, elles ont une utilisation de l'habitat terrestre, donc sortie des points d'eau, des mares ou des petits étangs, qui est beaucoup plus importante que ce que l'on présumait, que ce que l'on pensait. Là, on a noté, en fait, les cistudes, elles ont des domaines vitaux qui vont en moyenne de 5 hectares, et elles utilisent vraiment tous les éléments du paysage bocager. Elles vont utiliser les haies, elles vont utiliser les prairies, elles vont utiliser les boisements, et bien sûr, elles vont utiliser aussi les mares. Mais, en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est que les femelles, elles utilisent entre 1 et 3 mares. Les mâles, eux, ils vont utiliser entre 3 et 5 mares. Et derrière ça, en fait, il y a chaque mare va avoir son utilité. Parce qu'ici, on a une mare qui est relativement dégagée, donc qui est ensoleillée, avec plein de végétation aquatique. On a la chance de ne pas avoir d'écrevisse, donc on a une eau qui est très claire. On a un côté avec un roncier qui peut aussi créer une zone de refuge. On a eu dans ce roncier ici, on a une cistude qui passe à la même période, 1 mois, dans le roncier, alors qu'il y a de l'eau, il y a de l'eau dans la mare. Et on a le cas sur d'autres mares. Donc ici, on sait qu'on a un site d'hibernation. Nos GPS nous ont indiqué qu'on a 5 de nos cistudes qui ont hiberné ici. Une fois que l'hibernation a été terminée, elles ont quitté la mare, dès le mois de mars, là, et elles ont rejoint le boisement en haut. Alors on se posait la question, mais pourquoi elles vont dans le boisement? Alors, les GPS, ils sont aussi dotés d'un système de mesure de plongée. C'est-à-dire que quand la cistude est dans l'eau, on a l'information que la cistude est dans l'eau. Après, le GPS ne fonctionne pas aussi dans l'eau, donc, mais comme la cistude thermorégule, elle ressort régulièrement, donc on a cette information de où elle est. Mais on a donc l'information de... Elle peut très bien avoir quitté la mare et être dans une prairie, sauf que dans cette prairie-là, on a eu le cas juste à côté. 2024 a été très très pluvieux, donc les prairies, il y avait des dépressions prairiales, donc il y avait des zones inondées en fait, des zones humides, très temporaires, et là les cistudes exploitent. On a eu des femelles qui ont beaucoup plus exploité ces zones humides, ces prairies inondées, voire les anciens fossés du bocage. Elles ont été présentes une grande partie de l'année à la faveur de la présence d'eau dans ces milieux-là.
Quand tu dis exploite, concrètement, ça veut dire qu'elles y font quoi?
Eh bien ça, on ne sait pas, mais on note juste leur présence dans ces milieux-là. Alors après, on peut supposer, en début de saison, dans les dépressions prairiales, ça peut être des zones d'accouplement. Les femelles rejoignent ces milieux-là pour s'accoupler et pas risquer la noyade quand il y a l'accouplement. Si c'était en eau plus profonde, il peut y avoir noyade. Donc c'est une hypothèse, hein, même qui était connue déjà avant qu'on fasse ces sujets-là, ces études-là. Et en plus, il se trouve que là je fais des suivis du pop reptile, donc je vais de plaque en plaque reptile, et des fois je vois plus de cistudes à côté de mes plaques à reptiles en fait en milieu terrestre que de serpents. Et il y a des endroits, donc dans cette dépression prairiale qui est juste à côté d'un transect, il y a mâle et femelle, donc là ça ajoute à la faveur de l'hypothèse de d'aller dans cet environnement-là pour l'accouplement. Et ça, c'est plutôt en début de saison, bien que les accouplements peuvent avoir lieu toute l'année pour les cistudes. Et après, dans le boisement au nord, on les retrouve même en mai, juin, alors que c'est les périodes de ponte. Et là, moi, je me pose encore la question, mais pourquoi on va la retrouver dans ces boisements ? D'autant plus que quand je faisais le suivi par radiopistage, j'allais au contact de la cistude, et là, je la voyais dans les bois, elle n'était pas dans l'eau. Et on a, avec les données du GPS aussi, une utilisation de ces milieux-là, même quand il n'y a plus d'eau. Et là, se pose la question de pourquoi on les retrouve dans les bois et dans des zones où il n'y a pas d'eau, alors qu'il y a de l'eau dans les mares. Elles pourraient très bien avoir la nourriture. Ici, elles se nourrissent d'insectes, de macro-invertébrés. Donc, chaque mare va avoir son utilité pour la reproduction, pour l'hibernation, pour la recherche de nourriture. Donc voilà, elles fluctuent. Mais aujourd'hui, c'est assez nouveau, en fait, ce comportement un peu exploratoire des milieux terrestres à la faveur de leur ennoiement par les pluies comme elles ont été abondantes en 2024.
Et là, tu disais par exemple que la mare qu'on a sous les yeux, elle était exposée au soleil, y a un capteur de température, ça te donne aussi des indications sur l'habitat que
oui.
fournit ben, cette mare.
Oui, l'idée c'est d'avoir ce qu'on appelle des covariables, c'est pour essayer de comprendre pourquoi on observe ces comportements chez les cistudes. Mmh. Il faut qu'on ait des indices pour éclairer notre réflexion. Et là, peut-être qu'on a des mares qui sont plus fraîches que d'autres, peut-être qu'on a des mares qui sont plus chaudes que d'autres à certains moments, et peut-être qu'on va avoir une présence des cistudes plus à des moments où la mare est plus chaude, ou au contraire, l'été, quand il fait vraiment très chaud, la cistude va aller plutôt dans des mares plus fraîches. Et ça, on va pouvoir avoir ces éléments-là en comparant les températures issues de ces enregistreurs de température. Et ça, c'est encore des données qu'on doit analyser, mais là, on a emmagasiné beaucoup, beaucoup de données, et il faudrait beaucoup de temps pour pouvoir regarder tout ça. Mais ça va nous permettre d'alimenter notre réflexion, de pouvoir répondre à la question: pourquoi elle utilise plutôt cette mare à ce moment-là qu'un autre ? Et on pourra émettre des hypothèses. Et après, ces hypothèses, on pourrait éventuellement les tester en faisant d'autres études, d'autres travaux. Voilà, c'est la démarche scientifique, en fait.
Et donc, toutes ces indications, ça vous dit qu'elles utilisent des mares qui ont des profils très différents ?
Oui, oui, parce que on a une mare qui est relativement ouverte, et on a d'autres mares qui sont très fermées, quasi forestières, avec des arbres partout, tout autour, donc qui créent plus d'ombre, et pourtant elles sont quand même utilisées. Donc là, l'idée, c'est la diversité qui fait la richesse. La cistude, elle va avoir besoin de mares avec différents profils à différents moments dans son cycle. Alors pour l'instant, on ne comprend pas tout pourquoi, mais on constate qu'il y a besoin de cette diversité, elle l'utilise. Donc nous, ça nous permet d'avoir des préconisations de gestion, de dire, ok, si on veut favoriser la cistude, on pourrait se dire, bon, on ouvre toutes les mares, comme ça il y a un maximum de soleil, c'est un reptile, elle a besoin de chaleur. Pas forcément, elle va avoir aussi besoin, là on a une mare derrière qui est en permanence à l'ombre, et quand je l'avais restaurée, je me disais, bon, la cistude, elle ne va pas nécessairement y aller, parce qu'elle est tout le temps à l'ombre. Et bien en fait, il se trouve que cette mare, c'est la dernière à s'assécher, et la cistude les utilise. Et là, il faut qu'on regarde précisément, est-ce qu'elles ont une utilisation plutôt dans des périodes très chaudes. Et on a par exemple, on a les enregistreurs de température aquatique, mais on a aussi une station météo à la ferme, où on pourra regarder en fait ces comportements en fonction des conditions climatiques et météorologiques du site.
Oui, en fait, il faut bien se dire que déjà, l'énorme somme de données que vous avez récoltées sur les cistudes, vous les analysez en les comparant à une autre énorme somme de données sur les milieux. On a dit la température de l'eau, tu parlais de la station météo. En fait, il faut jongler avec beaucoup, beaucoup de paramètres.
Oui, c'est ça. Et après, nous, ça donne aussi des éléments. On a travaillé, on a une stagiaire, Oriane, en 2024, qui était en master deuxième année, qui avait fait ce suivi-là. Et après, on a eu un service civique l'année dernière, Majorane. Et les deux, c'était des éléments aussi pour eux, des exercices pratiques, en fait, hein, d'analyse de données. Moi, ça me servait à ce qu'ils puissent m'apporter des informations. Je me posais des questions, je disais, bah tiens, il faudrait qu'on regarde ça. Et ils pouvaient, eux, faire ces analyses-là. Ça leur donnait vraiment des éléments concrets dans leurs études. Nous, ça nous apportait des informations, mais il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et nous, à l'association, on n'a pas la prétention après de rédiger des articles scientifiques très poussés dans des articles très, très prestigieux. C'est surtout, en premier, d'apporter des informations pour de la gestion conservatoire. C'est-à-dire, des gens qui ont une ferme ou une réserve dans le bocage, de se dire, ok, si on veut préserver la cistude, eh ben, il faut avoir tel type de mare, avec une densité aussi, parce que j'en ai pas parlé, mais les mares ici, on a une dizaine de mares qui sont espacées environ de 200 mètres les unes des autres. Les mares, elles sont relativement petites, on est autour de 200 mètres carrés, donc elles n'ont pas besoin d'être immenses, mais c'est la densité, la proximité du réseau de mares qui crée en fait cet intérêt. Donc ce qu'on veut, nous, c'est avoir des éléments très pratiques à pouvoir reproduire ailleurs et dire, voilà, vous voulez préserver la cistude chez vous, eh ben, il faut faire ceci, cela. Les mares, il faut les préserver. Les prairies, à tel moment, ben, il faut faire ci, plutôt ça. Il faut maintenir des ronciers parce que une cistude qui va traverser une prairie, c'est à découvert. Des fois, elle ne peut pas traverser toute, ça reste une tortue, hein, elle ne se déplace pas très vite. Donc, elle a besoin de zones refuges pour pouvoir passer la journée. Elle va se déplacer la nuit. Et puis elle va se cacher dans le roncier ou dans une touffe de joncs. Donc avoir des zones refuges au milieu de la parcelle. Et il se trouve que ben, dans des secteurs où on a du pâturage, on retrouve ces milieux-là. Et ils ont un intérêt pour la cistude. Donc si on veut préserver la cistude, il faut préserver des petits îlots comme ça. Donc nous, ce qu'on veut, c'est des préconisations comme ça, très concrètes. Et plus largement, c'est de se dire que aujourd'hui, le bocage, il peut accueillir des populations viables de cistudes, puisqu'on a des bébés cistudes qui sont, on suit des nids, enfin on a tout ce qu'il faut pour avoir une population viable, donc avec des adultes, des jeunes et puis de la reproduction. Et nos données, en fait, plus globalement, on s'est rendu compte que la cistude, elle utilise vraiment tous les éléments du bocage. Les prairies pour aller pondre, mais pas que. Il y a aussi dans les dépressions prairiales dont je parlais, on retrouve de la cistude, même au mois de juin, même au mois de juillet, en dehors de la période de ponte, elle l'utilise. Alors on ne comprend pas très bien pourquoi, mais c'est un fait. Donc il faut l'intégrer et dans nos préconisations, il faut en tenir compte. Elle utilise les haies comme un élément aussi structurant du paysage, puisque quand on observe les déplacements, et ça c'est très frappant, quand elles vont d'un point A à un point B, et qu'elles le font plusieurs fois dans leur cycle, elles utilisent plusieurs déplacements, enfin plusieurs chemins, mais à chaque fois elles empruntent quand même le même, et on sent qu'elles ont une connaissance de leur milieu, elles peuvent utiliser les haies pour les longer, ou elles peuvent traverser et couper à travers les prairies, et en allant vraiment tout droit, elles savent où elles vont. Donc les haies peuvent être utilisées comme un élément structurant pour les déplacements, et si en plus il y a un fossé avec de l'eau, eh ben, elle s'est utilisée encore plus, parce que la cistude va avoir ce comportement un peu exploratoire, elle l'utilise, on ne sait pas très bien pourquoi, mais elle est présente au cours de l'année dans ces fossés. Et les bois aussi sont utilisés, et là je ne sais pas très bien pourquoi, parce qu'on a des fossés, et pourtant la cistude n'est pas dans l'eau, elle est dans le bois, et là ça peut être une piste de recherche pour plus tard, c'est qu'est-ce qu'elle fait ici.
Et en plus, tu parles de préconisation, et là, tous les éléments du paysage que tu nous as donné, donc la mare, la haie, le bois, c'est des éléments qui sont exploités par l'homme. Donc, oui. Ces préconisations, c'est aussi pour ceux qui vont travailler sur ces milieux.
Oui, oui, c'est alors déjà pour dans les réserves naturelles qui veulent préserver la cistude. Eux, leur mission, c'est de préserver l'espèce. Donc, ils vont pouvoir s'approprier ces nouvelles connaissances. Mais après, nous, ce qui nous importe, c'est aussi d'apporter ça au monde agricole, parce que si la cistude allait ici, on est dans une ferme en activité. C'est parce qu'il y a des pratiques agricoles qui ont permis la présence de la cistude. Donc, l'idée, c'est de dire aux agriculteurs, si vous voulez préserver la cistude chez vous, il faut faire ci ou enfin ce que vous faites en général est favorable à la cistude, et il y a des choses qui peuvent être défavorables. Abandonner les mares par exemple, c'est défavorable parce qu'elles vont se combler naturellement, elles vont s'enfricher, elles vont s'envaser, et nous on a un programme actuellement que c'est la TZH, c'est un accord territorial de zone humide où on propose d'aller chez des propriétaires privés, des agriculteurs et puis même des mares communales en disant, vous avez de la cistude ici, la mare elle est à l'abandon, nous on peut vous faire un cahier, un plan de gestion de votre mare, c'est-à-dire que si vous voulez préserver, ben, il faudrait faire ça. Si vous voulez, on peut commencer. Nous, on peut le faire. On a une enveloppe pour venir soit enlever quelques saules, soit au contraire planter des saules parce que la mare est trop ouverte, remettre de la végétation, gérer les poissons, parce qu'une mare avec des poissons, c'est pas bon pour la biodiversité, gérer les écrevisses, enfin avoir des préconisations très, très concrètes. Et après, les propriétaires, ils pourront, s'ils veulent aider la cistude, ils pourront l'appliquer. Parce que la cistude a ça de bien, c'est que c'est une espèce très sympathique aux yeux de tout le monde, très patrimoniale. Les gens apprécient la cistude. Et préserver la mare pour préserver la cistude, c'est une porte d'entrée pour préserver plein d'autres espèces, les amphibiens, les libellules, la végétation aquatique, la biodiversité en fait. Donc ça en fait une espèce parapluie. Et nous, ça nous permet d'aller discuter avec des agriculteurs pour les aider, pour ceux qui veulent, pour les aider à préserver cette espèce.
Bah d'ailleurs, si on doit décrire la mare qu'on a sous les yeux, on a dit qu'elle était ensoleillée et tout, mais au niveau de la végétation, on voit qu'il y a une belle diversité.
Oui, il y a une grande diversité. On a des potamos, on a des caracées, on a des renoncules aquatiques, on a un peu de jonc, on a de la glycérie. Enfin, on a une grande variété floristique. D'ailleurs, on a une botaniste qui est venue faire les inventaires ici grâce à la cistude. Mais il y a aussi une volonté que cette mare, elle serve à l'agriculture. Donc là, on a un fil, en fait, un fil électrique qui passe. Alors il passe pas dans l'eau, il passe au-dessus de l'eau, mais c'est pour permettre au bétail de venir quand même boire, donc de conserver cette utilité de la mare. Et par contre, il y a une partie où on empêche le bétail d'aller dedans, parce que sinon là, l'été, ils viennent et puis ils se roulent, enfin c'est un îlot de fraîcheur en fait pour eux. Donc il y a une partie pour qui sert d'abreuvoir, comme ça servait autrefois, et une partie qui sert à la biodiversité et donc aux libellules, aux cistudes. Voilà, c'est ce compromis. Et nous, la ferme ici se veut exemplaire, enfin, dans le sens où on explique qu'il ne faut pas exclure la mare de l'activité agricole, il faut l'intégrer dans l'activité agricole parce que c'est son usage qui va faire sa préservation. Si on ne l'utilise plus, elle va se combler. Alors que si on l'utilise et qu'on en a besoin régulièrement, il va falloir revenir ça dépend de la dynamique de la végétation, mais tous les 5, 10, 15 ans, je ne sais pas, on verra. Il va falloir peut-être recurer un petit peu, enlever de la vase pour empêcher qu'elle se ferme totalement.
Et donc là, l'étude est terminée. Est-ce que l'étude de cistude et bocage, est-ce qu'il y aura des projets qui vont suivre ?
Oui, bah sur les cistudes, on se pose encore plein de questions. Pourquoi elles vont dans les bois ? Enfin, donc là, on va mûrir un petit peu tout ça. On aimerait exploiter encore mieux les données, se tourner vers des chercheurs, avec des scientifiques pour pouvoir publier ces données-là, parce que même dans le monde des naturalistes, enfin des herpétologues et puis des scientifiques, ça n'a pas été publié. Alors moi, je vais dans des colloques, j'en parle et on ouvre cette nouvelle vision des habitats de la cistude, parce que quand on pensait au bocage, on pensait pas forcément aux cistudes, mais aujourd'hui ça ouvre même des possibilités de réintroduction dans un système bocager. Donc il y a, voilà, y a une, on espère une valorisation plus poussée, et derrière il y a plein de questions qui sont nées. Et on va voir comment on va pouvoir répondre à ces questions-là. Concrètement, qu'est-ce que les cistudes font dans les bois alors qu'il n'y a pas d'eau, et puis c'est en plein été? Mais je ne sais pas comment y répondre à cette question, mais ça serait bien de tenter d'y répondre.
Bon bah on reviendra dans quelques mois ou années te reposer la question.
Oui, bah avec grand plaisir, et puis je ne sais pas si j'aurai la possibilité d'y répondre.
Et bah merci Frédéric.
Et bah merci Juliette d'être venue.
Et merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés, et à la semaine prochaine.
Parlons nature. Bienvenue dans l'émission. Ça donne pas le bourdon. Proposé et co-animé par Indre Nature, l'association Épinété,
le Centre permanent d'initiative pour l'environnement
et la Réserve naturelle nationale de Chérine. Dans l'émission « Ça donne pas le bourdon », tous ensemble, parlons d'environnement.